Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Dis, tu la sens, grosse intelligence! Tu me sens, tu la sens bien!
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission.
Salut tout le monde.
Primitif.
Salut, salut.
Avec Bobo et Dahu, comme d'hab.
Exactement.
Et aujourd'hui, un nouveau thème, c'est films de notre enfance. Donc on n'a peut-être pas eu tous la même enfance, mais nous on est quoi, des années 90
oui,
80, enfant, 90. Enfant des années 90, ouais.
Effectivement, mais c'est un thème très très compliqué. Et critiquer des films d'enfance choisi par des personnes, c'est très compliqué à critiquer parce qu'il y a un attachement.
Après, on est de la même génération, donc on a eu les mêmes films d'enfance.
C'est vrai, mais il y a un attachement à certains films et tu sais pas pourquoi. Quand t'es gamin, tu sais pas pourquoi. Donc,
t'en as pas beaucoup d'enfants qui ont eu la liste de Schindler comme film de leur enfance.
En tout cas, c'est... Ben là, ça va être très subjectif, c'est nos choix personnels. C'est des films qu'on a vus et revus étant gamin.
Exactement. Moi, il y en a là-dedans que j'ai vu 30-40 fois.
Je commence par le premier film.
Oui.
Lance-toi.
Alors c'est l'histoire sans fin, donc par contre c'est pas vraiment de ma génération puisqu'il est sorti avant ma naissance. Il est sorti en 1984, un film réalisé par Wolfgang Petersen, qui a réalisé aussi 3, qui est pas mal, et En pleine tempête, que je connais pas mais il fallait que j'en note au moins 2. Donc au casting on a Noah Hathaway, Barrett Olivier, Tammy Stronach. C'est les enfants stars du film qui n'ont jamais fait carrière.
Des enfants tout court du coup.
Oui.
C'est pas le modèle États-Unis où l'enfant continue dans sa carrière.
Du coup, donc pour le synopsis, on a donc c'est l'histoire de Bastien, un garçon d'une dizaine d'années, introverti et solitaire. Un jour sur le chemin de l'école, comme d'habitude, il se fait poursuivre par 3 garçons qui tentent de le racketter puis le mettre dans une poubelle. En les fuyant, il trouve refuge dans une librairie. Le libraire lui tient des propos énigmatiques sur un livre intitulé « L'histoire sans fin ». Arrivé en retard à l'école et découvrant sa classe en plein contrôle de maths, Bastien décide de se cacher dans le grenier de l'établissement et entame la lecture du livre qu'il a préalablement volé. Donc le livre raconte une histoire dans un monde fantastique de Fantasia, un monde qui est attaqué par le néant, une entité fantastique, on ne sait pas exactement ce que c'est. Bastien, à travers le livre qu'il est en train de lire, va découvrir un personnage principal qui est Atreyu, un jeune guerrier appelé par l'impératrice pour sauver le monde de Fantasia. C'est pas évident à expliquer parce que c'est un film qui raconte un livre qui est, voilà, ce
qui
jeune
est,
Atreyu.
Qui est lu par la personne qui va véritablement faire l'histoire.
C'est ça
qui est extraordinaire. Non, ce que j'ai trouvé génial dans ce film, et c'est les 3 premiers quarts d'heure. Après, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas et je l'ai pas trouvé. Mais le début, il est extraordinaire.
Le thème est marrant par rapport aux années 84 où il n'y a pas encore internet, etc. Où il y a déjà un déclin de lecture pour les jeunes, en fait.
Ouais.
Le bibliothécaire.
Non, mais c'est ça.
Non, je t'accueille pas, tu dois lire des comics.
C'est ça. Et le libraire, moi, la scène du libraire, je trouve que c'est la meilleure.
Le libraire
lui dit surtout, tu lis pas ça. Et derrière, il y a un gamin, il repart avec le livre, le libraire, il a le petit sourire en coin, content.
C'est sur ça que tout repose.
Ça repose. Donc, le néant dont on a parlé, c'est vraiment le manque d'imagination, le manque de lecture des jeunes.
Bien sûr.
Après, c'est un garçon qui n'aime pas clairement les mathématiques, qui est littéraire. Voilà, c'est un gamin qui a lu des œuvres à son âge qu'il n'aurait pas dû lire.
Quand il va rentrer dans cette histoire, il va rentrer vraiment dans son monde, dans sa bulle, et suivre le parcours d'Atreyu qui chevauche Artax, son cheval. Et ils vont rencontrer plein de personnages atypiques, le mangeur de pierre, la Morla, la tortue géante, le dragon Falcor. Il y a plein de personnages.
Non mais sûr.
Personnages fantastiques.
On est dans le fantastique vraiment
rêver
allemand là pour le coup.
Et ton gamin.
Ouais. C'est très très bien. Après, moi je trouve qu'au bout de 3 quarts d'heure, ça s'essouffle. On sait pas quoi faire. On fait réapparaître le dragon.
Après, faut le contextualiser. Quand t'es enfant, je trouve que ça fait que ça vraiment aux enfants plus qu'aux adultes.
Mais voilà,
non mais moi déjà à l'époque, j'avais aimé le début du film.
Bah, ce qui est intéressant, c'est que pour un jeune, il personnifie le néant, tu vois. Le néant, c'est quoi? Moi je me souviens quand j'étais gamin, le néant, c'est un mot que tu apprends pas à l'école, tu vois.
Et le néant, c'est le manque d'imagination faire.
C'est ça.
Voilà. Et moi, franchement, il y a des scènes que j'adore. Et une réplique en particulier, vous souvenez, de la traversée des marécages de la mélancolie.
Oui, bien sûr.
Donc c'est Atriou qui traverse les marécages de la mélancolie son cheval Artax.
Ouais, on se souvient qu'on aime les animaux dans cette émission.
Tout à fait, exactement. Et on entend la voix de Bastien qui est en train de lire le livre donc d'imaginer Atriou et Artax. Et qui dit « Chacun sait que celui qui se laisse envahir par la mélancolie sombre dans les marécages. » Vraiment, au fait, ce film, je trouvais très poétique. C'est un film aussi qui est tiré d'un ouvrage de Michael Ende, l'auteur du livre, qui d'ailleurs a renié un peu le film et qui a voulu que son nom soit retiré du générique.
Ouais, je pense que l'auteur du livre a adoré les 45 premières minutes.
Non, moi je le trouve parfait ce film. Donc, voilà. Mais pour beaucoup, ça a vieilli, pour beaucoup, c'est mauvais. C'est kitsch. Moi j'adore.
C'est kitsch, c'est pas mauvais, mais c'est kitsch.
C'est kitsch, c'est bon. Mais je te dis, pendant 45 minutes, tu prends un pied fou. Enfin, moi, je me souviens, en étant gamin, j'ai pris un pied fou. Mais après, tu t'endors.
C'est pas... Du moins, c'est un film pour enfants.
Les paysages sont beaux. L'univers de Fantasia est magnifique. Les créatures qui rencontrent le sont aussi. Et surtout, la BO. Parce que là, on va en venir à la musique. La BO est en partie de Giorgio Moroder. Pardon.
Ouais.
On en a déjà parlé dans...
Midnight Express.
Voilà, exactement.
Film présenté par Dave.
Donc c'est un peu musique électronique et tout, mais ça colle.
C'est pas un peu, c'est électro, c'est exactement. Le prince de l'électro, le roi de l'électro.
Un des pionniers, ouais. Mais en plus, la musique que je vais mettre, c'est pas du tout de lui. On l'entendra en fond, comme d'habitude. Mais là, la musique que je vais passer, c'est la musique culte, Never Ending Story.
Qui a été écrite pour le film.
De Limahl, qui a été écrite pour le film en 1984.
Ça, c'est pas mal.
Et qui est redevenu culte avec Stranger Things. On vient de s'écouter...
Histoire sans fin.
Ouais.
Et donc, la musique serait réalisée par... Composée par...
On ne sait pas.
Giorgio Moroder.
On n'est pas sûr de ça.
Et interprétée ensuite par Limahl.
Pas sûr de cette info, je ne me mouille pas.
Je sais qui s'est mis dessus.
Je vous propose qu'on passe au film suivant, du coup.
Le prochain film est Hook. La revanche du Capitaine Crochet. Réalisé par Steven Spielberg. En 91, donc bon, Steven Spielberg, je pense qu'on n'a pas besoin de faire sa filmographie.
Non, mais tu peux nous donner juste un ou deux films de Jurassic Steven Spielberg.
Park. Jurassic Park.
On peut dire Jurassic Park.
Ouais. Bon, ou, le soldat Ryan avec Vin Diesel dedans.
Alors après, la musique est composée par John Williams, hein, son compositeur officiel, hein, celui qui a fait la musique des Jurassic Park, E.T., Jaws, dans de la mer, Star Wars, Indiana Jones. Bon, Star Wars Indiana Jones, c'est pas réalisé par lui, mais produit par lui et son grand copain George Lucas. C'est produit par Nick Castle. On peut pas beaucoup parler de John Carpenter, mais c'est le mec qui joue Halloween, Michael Myers.
Non.
Oh oui,
et
d'accord.
Et c'est lui qui fait le scénario de ce film.
Il m'avait manqué John Carpenter.
Ah, on va pas beaucoup en parler. Carrie Fisher aussi un peu bossé dessus.
Sur la production.
Pas crédité. Non, scénariste. Donc c'est un film action-aventure fantastique qui parle de l'histoire de Peter Pan. À la distribution, on retrouve Robin Williams, qui interprète Peter Banning, et Peter Pan aussi, Dustin Hoffman, capitaine Crochet, Julia Roberts, qui joue Clochette, Bob Hoskin, qui fait Mouche, et Maggie Smith, qui joue dans des films que j'ai pas trop vus, Harry Potter.
Qui c'est, ouais.
Alors, le pitch, c'est Peter Banning, un avocat d'affaires devenu père de famille, a oublié qu'autrefois, il était Peter Pan. Lorsque le capitaine Crochet kidnappe ses enfants, Peter doit retourner au pays imaginaire pour les retrouver, les sauver et redécouvrir la joie de l'enfance. Donc la joie de l'enfance passera par la souffrance du père qui n'a plus ses enfants et devra être avec des enfants, supporter des enfants,
retrouver son âme
d'enfance grâce à cette mécanique
avec
qui est
les
géniale.
Enfants perdus.
Ce film est vraiment cool. Si on aime les pirates, les enfants perdus, du moins le monde imaginaire. C'est comme ça qu'on s'imagine, des pirates qui font yo-ho et qui ont des couteaux, ils sont pas contents. Et...
Moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que tu dis tac, je vais regarder un film de Peter Pan. Au final, non.
Non,
c'est pas ça. C'est ce qu'il y avait avant. Et
bien
du
sûr.
Coup, tu pars mais sur.
Grâce à ça, il introspecte aussi sa vie à lui. Spielberg,
ouais,
il est un peu délaissé par son père qui bossait beaucoup.
Il est génial.
C'est une lecture de Peter Pan qui est différente
c'est
du livre.
C'est quelqu'un qui a oublié qu'il était Peter Pan. Qui pouvait rêver qu'il a été un enfant.
Il a oublié qu'il était un enfant.
Et qui arrive dans le monde où tout est possible.
Ouais, et surtout, c'est Robin Williams. Donc, pour les enfants, enfin pour les gens qui ont grandi dans les années 90, Robin Williams,
c'est Dieu.
C'est Dieu.
On peut reprocher peut-être l'aspect un peu cartoonesque aussi des décors et tout. Et moi, pour moi, ça, du moins, pas cartoonesque, mais Disney plutôt. C'est vraiment du Disney, du vert Disney, mais à l'origine il devait faire une comédie musicale, ça a été refusé par la production, donc ils ont tourné plein de scènes qui ont été supprimées. Mais les décors sont parfaits, le bateau flottait pas, ils ont testé, il a pas flotté.
Ah.
À l'origine ça devait être 30 millions, c'est monté à 70 millions juste avec les décors, Clochette, l'animation de Clochette, etc. Parce qu'en fait il fallait retoucher image par image, Clochette ses ailes, elles sont pas dans son dos, tu vois, ils ont rajouté tout en post-prod, etc.
D'accord, ouais.
Et le bateau est parfait, hein. Il y a plein de trucs qui sont cool. Il n'est pas très large, mais la pièce du capitaine Crochet, elle est énorme. T'as l'impression que c'est super grand, alors que le bateau, il est pas si large.
Il est tout petit, oui, tout à fait.
Et t'as plein de clins d'œil, plein d'anecdotes, ta boîte à bobo, les...
Plein de trucs fun, franchement.
Ah oui, non, mais...
Tu t'ennuies pas et...
C'est un film pour les gamins qui est extraordinaire.
Il fait voyager.
L'affrontement entre Robin Williams et Dustin Hoffman, gros.
Et en plus,
c'est deux géants du cinéma qui
te font... Ils se sont mis dans leur rôle pendant le tournage, ils se parlaient pas.
Mais ce qui était très drôle, c'est qu'ils se parlaient pas, mais je crois qu'ils supportaient pas trop, tout simplement.
Parce qu'ils se sont mis dans leur rôle, en fait. Parce que Dustin Hoffman, il était en Captain Hook.
Ouais.
Il était pas gentil, il faisait chier les gens, les enfants et tout.
Robin Williams.
On sait qu'il aime bien jouer avec des enfants et tout. Il leur offert des cadeaux, il était gentil avec eux.
Ouais.
Et jusqu'à la fin du tournage, les enfants ne savaient pas qui aurait l'épée à la fin. Donc la réaction est vraiment prise sur le vif de quand il donne à la boule.
Okay.
Mais tout est beau et la vie réelle, quand il y a la flûte qui est toujours là, du moins il y a un mélange entre l'imaginaire et le réel.
Non, c'est un beau film. C'est un vrai beau film avec une belle...
Qui transporte. Pour toute génération, enfant peut-être pas tout jeune non plus, parce que...
Tu lis ton Peter Pan à ton enfant, et là, tac, tu lui mets où
parce que là, on est sur un vieux Peter Pan.
T'as la conscience aussi des parents absents, du moins t'as pas mal de choses que peut-être à 6 ans, tu comprends peut-être pas forcément.
Ouais.
Après, le tournage s'est passé sans spécialement d'encombre. Ils ont eu plusieurs nominations aux Oscars. Ils ont pas eu de récompense, il me semble, par Hugo Glendon.
Non.
91, la concurrence était peut-être un peu trop forte. Début des années 90, il y a une paire de films qui étaient sortis. En tout cas, John Williams maîtrise encore ses instruments à ce moment-là et réalise une des meilleures bandes son qu'il a fait pour Steven Spielberg.
Elle est bonne celle-là.
Ouais. Qui est aussi culte pour moi que celle de Jurassic Park ou Les Dents de la Mer. C'est le thème que tout le monde connaît.
Oui, chacun, enfin, chacun a sa préférence. Mais c'est vrai que celle-là fait partie de ce.
La mer, 3 notes, tu reconnais. Voilà. Jurassic Park, une note, tu reconnais.
Enfin, c'est John Williams. En fait, en même temps, tu parles de John Williams. Enfin, voilà.
Qui est attaché à. Jusqu'à sa mort, sera attaché à Steven Spielberg.
Bien sûr.
George Lucas.
Ouais, tout à fait.
Donc, la bande-son que j'ai choisie, du moins le morceau choisi, c'est Flight to Neverland de John Williams. C'est le thème d'ouverture de Hook et la revanche du Capitaine Crochet.
Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter un petit John Williams, Daü, c'était la musique de...
De Hook, le thème d'ouverture.
Flight to Neverland.
Exactement.
Et Bobo ?
Oui, alors à mon tour, je vous présente Ace Ventura en Afrique. C'est une machine de guerre sortie en 96, réalisée par Steve Odekerk. Qui a réalisé aussi Rien à perdre, La ferme en folie. Pas dingo, mais il a réalisé Aventure en Afrique. Avec une distribution, on retrouve le grand, génialissime, l'extraordinaire, le sublimissime Jim Carrey, qui entre 94 et 96 va sortir quand même The Bed and Bird Ace Ventura, le premier, détective chien et chat, Ace Ventura en Afrique et The Mask, quand même.
Hein, Génération 90, on était obligé d'avoir.
Voilà, moi Jim Carrey, c'est Dieu pour moi, c'est Dieu. C'est,
autant qu'on vit nu, c'est moi, c'est pas.
Exactement, exactement. On a le droit d'être polythéiste ici, il y a plusieurs dieux. On a Ian McNace qui joue dans From Hell, Simon Callow en 4 mariages et un enterrement.
Qui a réalisé From Hell?
Ben, on était sur Tim Burton. On était sur Tim Burton. Simon Callow qui a joué dans 4 mariages et un enterrement, celui qui fait un infarctus, et du coup, ça va être lui qui va faire l'enterrement. Sur le synopsis, parce qu'il n'a pas pu sauver un raton laveur perdu en haute montagne, et ouais, ça c'est un petit clin d'œil, un gros clin d'œil effectivement à Cliffhanger, avec un acteur principal dans Cliffhanger qu'on ne présente pas, si vous connaissez un peu.
Defy 2000 et tout ce jeu.
On n'en parlera pas de cet acteur, mais vous l'avez tous reconnu. Donc en haute montagne, Ace Ventura s'est retiré dans une lamazerie au Tibet. C'est un temple tibétain, si vous ne savez pas. Mais à la faveur d'une nouvelle mission, Ace Ventura part en Ibi, un pays imaginaire d'Afrique, pour mettre à la main sur une chauve-souris blanche sacrée disparue qui répond au nom de Chikaka. Pour éviter qu'un conflit n'éclate entre les tribus Wachati et Wachutu. Hey, déjà j'en ai des frissons, rien qu'à raconter le synopsis, j'en ai des frissons, j'ai envie de rire. Ça me calmait étant gamin, j'étais un peu hyperactif et ce film il me calmait.
Tu sens le truc arriver mais t'en rigoles quand même.
Ouais,
il y a des
deux, trois
scènes, tu vois le truc arriver mais t'en rigoles quand même. Même après avoir
J'ai tellement peur de le revoir en me disant ça va être que des clichés des années 90 et tout, ça va être insupportable. Et oui, c'est le cas, mais c'est trop drôle.
Ouais, mais en dehors de ça, enfin, je veux dire, c'est un sujet avant-gardiste. Le mec, il est... oui, il est écolo. Mais voilà, non, vraiment, c'est avant-gardiste, je trouve.
Moi, je trouve que ce côté-là, tu le ressens plus dans celui-là que dans le premier.
J'avais peur, justement, que ça ressemble au premier que j'avais vu.
Non. Moi, déjà, j'ai découvert Ace Ventura en Afrique avant de connaître le premier.
Moi aussi. Mais celui-là m'a plus marqué. Dans la scène du cœur...
Ouais,
pendant des années, ça m'avait marqué, tu vois. Mais ouais, tu rigoles et tout, mais quand t'es gamin, tu vois.
J'ai quand même une anecdote là-dessus. C'est-à-dire que ce film-là, il a été énormément censuré à la télé anglaise. Il a été énormément censuré. Donc, c'est justement cette scène avec le cœur, etc., où il enfonce son bras pour chercher le trognon de pomme. Ça, c'est censuré.
C'est en référence à Indiana Jones.
Bien sûr. Non, mais il n'y a que des références. Mais ce film, c'est une machine de guerre. Il y a deux, trois scènes qui sont un peu pipi caca.
Après, on va pas se mentir, ce film, c'est que des successions de blagues.
C'est une machine de guerre.
Il n'y a pas de. Enfin, il y a un scénario. Non, mais on s'en fout. Le scénario, moi, je l'ai même oublié déjà après avoir vu le film. Tu
vois. Sur chaque scène, t'as un gag. Enfin, t'as un gag, t'as une.
Non, mais c'est en mode gamin.
Quand tu vas dans la tribu des Wachutu. Tu lui dis. Ikuchi Uya, ça veut dire quoi? Il a dit Diable Blanc. Dis-lui qu'il se trompe de personne. Ikuchi Uya. Il a dit... Attends, je parie que je sais. Diable Blanc. Quoi? Tu parles Wachutu? Moi, je suis un gamin dans ce film.
Tu vis ta meilleure vie, là.
Ah ouais, ouais.
Mais les performances d'acteurs, quand il est avec les hippopotames, il est pas forcément à côté d'eux, mais... Le mouvement d'oreille.
C'est ça, la plastique.
Il gère vraiment ses muscles du visage.
T'as déjà bougé tes oreilles? Bah, lui, gros, il fait ça.
Mais Jim Carrey, c'est tout faire au niveau des mimiques et tout. Bah, il est trop fort. C'est le meilleur.
Il se retrouve dans l'eau avec un crocodile.
Un des meilleurs acteurs comiques.
Bah, avec un crocodile. Il fait une scène avec le crocodile, il fait un combat avec un crocodile.
Il est trop fort. Et ce qui est bien avec lui, c'est que tu peux le regarder en version française, il n'y a pas de problème. Parce que
le doubleur était vraiment parfait.
Et limite encore meilleur que lui.
Ça, c'est vrai.
Il ne sera jamais meilleur que lui, mais il est aussi bon, presque aussi bon en tout cas.
Bah, en tout cas, moi, quand je regarde Jim Carrey, j'ai besoin de le voir en français.
Comme tu disais, c'est les films de notre enfance. Enfin, la VO a été quasi inexistante.
Bah, en même temps, t'as regardé Star Wars en allemand, toi?
Ouais, non.
Mais il a fait quand même plusieurs films dramatiques que j'ai préféré regarder en VO.
Non, mais c'est un excellent acteur qui est capable
par
de tout
contre,
faire.
Par contre, sa VF, oui, bah, c'est assez...
Voilà. Ah, j'ai une petite anecdote, s'il vous plaît, là-dessus. Ace Ventura faisait beaucoup marrer Jean-Luc Godard. Quand même, hein, on c'est pas n'importe qui a réalisé
Abou Souf, Pierrot le Fou. C'est vrai, je n'ai pas filmé cette scène, vous rigolez.
Qui l'aurait classé dans ses films préférés des années 90 et qui le qualifie de merveilleux bonbon. Ce film serait très censuré, voilà, on l'a déjà dit sur les télévisions anglaises. Même si on est enfant, effectivement, il y a des scènes, on comprend pas tout. L'autre, il se fait attraper par l'algorithme et que ça bouge un peu dans tous les sens. Quand on est gamin, on comprend pas. Mais c'est pas grave, en fait. Je finirai là-dessus sur une musique sélectionnée et qui a été réalisée par Robert Falk, qui a réalisé aussi la musique de Police Academy.
Oh oui, la petite chandelle, je viens de voir ta fiche.
Et l'histoire sans fin 2
qui est un film de merde, mais regardez le premier.
Mais voilà, mais il a quand même réalisé la musique. Mais la BO, franchement, de Ace Ventura en Afrique, elle est très très bonne et je vous laisse l'écouter.
et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter
Une musique de Robert Falk, Ace in Africa.
De Ace Ventura en Afrique. Et on passe au film suivant.
Ouais. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Le titre original, Who Found Roger Rabbit? Réalisé par Robert Zemeckis.
Connais pas.
Connais pas. On n'en a pas encore parlé d'ailleurs, je crois.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il a fait, Robert Zemeckis?
Ouais, on va juste dire retour vers le futur. Alors, le compositeur Alan Silvestri, bon, on avait fait Forrest Gump, donc il était dedans, Retour vers le futur, bien sûr, et Predator. Donc ce film est sorti en 1988, c'est un film d'animation avec un petit côté polar, d'une durée de 1h40 environ. La distribution, on trouve Bob Hopkins, qui joue aussi dans Hook,
Mouche,
qui s'est fait relever de... Bon, génie, hein, qui interprète le Judge Doom.
Monument, je dirais monument. Monument.
Ouais, que ce soit par la famille Adams ou Retour vers le futur. Et Kathleen Turner qui fait la voix de Jessica Rabbit, ça joue dans Serial Mother, film de John Waters, je sais pas si vous avez...
Non.
Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'aussi dans les doublages français, on retrouve deux personnages qui jouaient dans Retour vers le futur. Hein. Christopher Lloyd qui joue Doc dans Retour vers le futur. Et Roger Rabbit qui est la même doubleur que Marty McFly. Bon, passons au synopsis. Dans une version alternative des années 40 à Hollywood, les personnages animés coexistent avec les humains.
Les Toons.
Roger Rabbit, une star de dessin animé, est accusé à tort du meurtre de Marvin Acme, le propriétaire de Toonville. Pour prouver son innocence, Roger fait équipe avec Eddie Valiant, un détective privé humain qui doit surmonter sa propre aversion pour les Toons afin de résoudre le mystère. Le film est très intéressant par rapport à ça parce que le protagoniste principal, Bob Hoskins, déteste les Toons. Ouais. Surtout, il aime pas leurs blagues, ça les fait pas rire. Eux, les Toons, ils font des blagues tout le temps, puériles ou pas.
Et puis, il a une raison de pas les aimer.
Il a une raison de pas les aimer, son frère a été assassiné par un Toons. Dans ce film, on retrouve vraiment presque tous les personnages iconiques de cartoons, que ce soit Disney ou Warner Bros. Ils ont réussi à gérer les droits entre Disney, les Tex Avery, etc. Ce qui est un peu improbable. Ça s'est fait un peu en loose, à vrai dire.
Et puis surtout, Roger Rabbit, il existe nulle part ailleurs.
En faisant ce film, Disney pensait valoriser une nouvelle figure, en gros. Ça devait être le nouveau produit d'arrivée, le nouveau personnage. Nouveau Mickey, exactement. En faisant ce film, donc c'était à base de grosses promos, tu l'avais dans tous les bouquins et tout. En gros, c'est produit par Steven Spielberg. Steven Spielberg, c'est produit dérivé. Il sait que la machine, elle va rapporter, même si ça part pas spécialement bien. Donc dans ce film, ils ont quand même utilisé beaucoup de techniques qui étaient assez novatrices, hein, parce qu'ils ont tout animé image par image. Ils ont fait déjà tout le montage du film, donc poser la bande son et tout, avant de rajouter tous les Toons.
Même pour les acteurs, du coup, ça devait être...
Bah, pour les acteurs, c'est... les acteurs, en fait, ils faisaient en trois prises. Tu as une première prise où tu as l'acteur avec une marionnette qui fait tout son truc. Après, il refait sans marionnette. Et après, ils refont une troisième fois de validation.
Long et fastidieux, quoi.
Bah, long, fastidieux, et surtout, ce qui était plus long et fastidieux, c'est intégrer les Toons, parce que tu as des effets d'ombre, parce que... Un des plus durs, c'était Dumbo derrière les rideaux. Les stars à bande. Voilà. Et du coup, il faut l'animer entre chaque star. Donc, pour faire passer tout ça, ils l'ont fait un peu en loser. Parce qu'en gros, il fallait que Roger Rabbit apparaisse autant que Mickey. Et que Donald apparaisse autant que Daffy Duck. Mm. Et ils voulaient que ça soit les derniers personnages de Daffy Duck et de Roger Rabbit, etc. Sauf que ils leur ont montré des versions où Daffy Duck, c'était la bonne. Et au final, ils ont mis la version de Daffy Duck, des premières versions, comme Titi, en fait. Titi, c'est le vraiment premier Titi, et pas le Titi qu'on connaît tous et qu'on a vu dans sa cartoon, etc.
Oui, j'allais te dire, dans sa cartoon, l'émission qui passait sur Canal+,
avec Philippe Zana.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, voilà. Et ça a démarré début 90, ils intégraient les cartoons le présentateur.
Avec le truc de merde sur...
Magnifique, cette émission.
Bah oui, ça me faisait rêver.
L'émission Disney qui allait le dimanche avec...
Jean-Pierre Foucault.
C'est sympa, t'as des animés intégrés.
Après, moi, je sais que j'aime beaucoup le film, mais j'ai du mal à gérer les deux. Après avoir vu ce film, et même si je l'avais vu étant gamin, j'ai pas envie de voir un cartoon, et j'ai pas non plus envie de voir aujourd'hui un film des années 50.
Non, pourtant, mais le film... En soi, le film commence direct par un cartoon en mode Tex Avery. Bon, Jarabit doit sauver le bébé, tu vois, et le bébé, bah, c'est un adulte qui fume des clopes, il s'en fout, il y a des scènes coupées où il fait des bras d'honneur.
Non, mais, non, mais il est génial, le bébé.
C'est, il y a une double lecture, en fait, enfant et tout, Toon vit, la ville est complètement barrée, les Toons sont complètement barrés. Et le mélange des deux, et bah, pour les performances des années 88...
Après, c'est un film pour enfants, mais dedans, ça boit bah, et ça fume. H24.
Moi, je trouve qu'il est presque après, est plus pour adulte quand même.
Ouais,
pour
bah ouais, après, on est sur les années 50. Forcément, ça fume, ça boit.
T'as des Toons qui sont tués par la trompette.
Puis en plus, Christopher Lloyd, il fait peur.
Ouais, non, mais Christopher Lloyd, il est vraiment à contre-sens de tous ses autres rôles.
Et
qu'il a.
Ils l'ont grimé un peu quand même.
Ouais, ils l'ont grimé, puis ses lunettes fumées en fait, avec un reflet fictif en fait. Ouais, ouais, c'est un reflet vraiment de Toons. Mais... Franchement, ce film se regarde sans problème. Hein. Ils ont quand même eu 4 Oscars, du moins ça reste,
c'est un film
qui a été rentable alors que personne n'y croyait. Et du coup, ça a été quand même un gros duel entre plusieurs studios, mais Disney avait la main mise sur Roger Rabbit, les produits dérivés, etc. Qui a fait un flop parce que normalement, ils devaient sortir un 2, un 3, ils avaient prévu de faire un 2, un 3. Qui est resté au final au stade d'animation, ils ont fait des courts-métrages Roger Rabbit, 2, 3.
Mais après, c'est pas plus mal qu'il y ait un film.
Après, tu vois, je suis peut-être un peu aussi biaisé par, par exemple, un film un peu, qui arrive un peu plus tard, comme Space Jam, où tu sais, t'as
Michael Jordan. Niveau, quand même.
Non, mais t'as Michael Jordan avec les
Looney Tunes. Qui n'est pas un acteur et qui joue pas très bien par rapport à Bobo.
Non, mais exactement, en fait, c'était à la fois mauvais pour Michael Jordan et à la fois mauvais pour les Looney Tunes.
Mais par contre, j'ai adoré ce film étant enfant.
Mais ouais.
Pour Michael Jordan. Je suis pas sûr, ça lui a fait une image à l'étranger pour les jeunes qui ne connaissaient pas le basket.
Bah voilà, donc si tu veux, je pense que j'ai été un peu biaisé sur ce truc.
Oui, mais bon. Ouais, bah déjà, il y a un scénar qui se tient.
Et je pense que c'est le genre de film que tu peux revoir des dizaines de fois et tu vas toujours trouver un truc. T'as un petit détail caché, un petit truc.
Il y en a plein, tu vois, genre le train, qui passe à la fin, chaque vide de train, c'est que des meurtres. Mais ça passe tellement vite que tu te rends pas compte si tu mets pause, à chaque vide de train qui passe, à la fin le train qui fonce dans la machine à trompette, chaque fenêtre du train, c'est un meurtre en fait que tu vois en silhouette.
D'accord.
T'as plein de détails partout, genre il n'y a pas Félix le Chat parce qu'ils ont pas eu les droits, mais sur l'entrée du tunnel des Toons, t'as Félix le Chat qui est tagué sur le mur, et ils ont réussi à l'intégrer comme ça en fait. Ils ont fait plein de trucs à la con qui donnent des lectures assez différentes à chaque fois, et ce que j'adore dans les films en fait, c'est revoir les films pour voir des trucs différents. Et la performance de Bob Hoskins, qu'elle soit dans Hook ou dans celui-là, dans celui-là, elle est complètement folle, quoi. Enfin bref, j'ai choisi la musique du film Smile, d'Anna Smile, qui est en gros une reprise du premier, d'un des premiers Tex Avery, sorti en 1930 avec un... Je crois que c'est un renard dans un train.
Okay. Merci à toi, Dahu.
De rien.
Et ben merci, et c'est parti. Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter la petite musique de Roger Rabbit.
Ouais, qui a été réinterprétée par Anne Silvestri pour le film. Et c'est une musique originale de je ne sais plus qui, de 1930, de l'animation de Tex Avery. Et le nom du morceau, c'est Smile, Darnia Smile.
Un bon film de notre enfance, franchement.
Nono, c'est à toi, et ton film. Et celui-ci, celui-ci...
N'en dis pas du mal. Je t'interdis de dire du mal de Jumanji. Le Jumanji, il n'y a pas le remake avec The Rock, etc. Jack Black, que j'adore, mais...
qui sont sympas.
Ok, je les regarderai, mais pour l'instant, j'ai envie de te parler de Jumanji, sorti en 1995, de Joe Johnston, qui a fait aussi Chérie, Gératrice et les Gosses.
Que j'ai failli présenter.
Ouais, et Richa au pays des livres magiques. Et surtout, le très très mauvais Jurassic Park.
C'est pas le plus mauvais des Jurassic Park.
Pas oui, non, parce qu'après, il y a eu Jurassic World, mais c'est...
Ah, c'est pas le plus mauvais des Jurassic, alors.
Non. Ouais, voilà. Et, mais,
le plus mauvais Jurassic Park.
C'est le plus mauvais des Jurassic Park, on est d'accord. Et après, en distribution, il bah, y a Robin Williams. Il y a Jonathan Hyde, donc, qui a joué dans Titanic et la momie. Mm-hmm. Et une actrice que j'adore, Kirsten Dunst, âgée seulement de 12 ans à l'époque. Et en plus, on la reverra peut-être dans le film suivant. Donc, le synopsis, c'est l'histoire du jeune Alan Parrish qui ne s'entend pas avec ses parents et qui va tomber par hasard sur un jeu, Jumanji, auquel il décide de jouer avec Sarah, une de ses meilleures amies. Et au moment de lancer les dés, il va se retrouver emprisonné par le jeu qui lui indique que dans la jungle,
tu te retrouveras.
Un 5 ou un 8 te délivrera. Et là, voilà, il va se faire aspirer par le jeu, Sarah...
Aspirer littéralement.
Il va disparaître du monde réel pour se retrouver dans Jumanji.
Pendant 26 ans, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Sarah va être traumatisée, d'ailleurs.
Normal, avec quelqu'un en train de faire un jeu, tu vois ça tous les jours, toi.
C'est des choses qui
elle
arrivent.
Elle joue avec un gamin, quand il disparaît.
J'aurais pu jouer au jeu.
C'est des choses qui arrivent. Et 26 ans plus tard, en fait, bah, du coup, les parents de Alan ne savent pas ce qu'il est devenu, la maison est vide... Et de nouveaux enfants, des orphelins qui viennent de perdre leurs parents, vont emménager avec leur tante dans cette maison. Ils vont tomber sur le jeu et décident d'y jouer aussi.
Et la partie redémarre.
Oui, la partie redémarre.
Ça pas. Reste reprend, la même reprend. Partie 26
et
ans après.
Il va déjà ajouter des nouveaux joueurs.
Peter va faire un 8 ou un 5, je ne sais plus. Et Alan va être de retour dans le monde réel. Ils vont décider de continuer la partie à 4. Et à chaque fois qu'il lance les dés, il y a un élément de... du jeu qui va venir dans le monde réel.
Ouais, le jeu en ouais. Prend vie.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le monde réel et le monde de Jumanji, où par rapport au jeu et au lancer des joueurs, il va y avoir des échanges entre les deux mondes. Et ça,
c'est ça.
Et c'est exactement...
Donc on va avoir des singes, on va avoir des lions, on va avoir un...
Des plantes carnivores.
Et... Plantes carnivores, ouais. Et on va avoir aussi un braconnier.
Et c'est aussi
l'acteur qui joue le rôle
du père d'Alan. Ouais.
Ouais.
Ouais, exactement. Le père d'Alan joue aussi le
ouais,
chasseur.
Ouais, c'est la figure aussi.
Ouais, c'est génial.
Donc l'acteur, c'est Jonathan Hyde, qui joue donc, comme on l'a dit, Van Pelt. Au final, la partie va reprendre avec donc Peter, Judy, donc les enfants 26 ans après. Sarah, qui n'avait pas envie de rejouer à ce jeu parce qu'elle a été traumatisée. Et Alan, qui a été enfermé dans ce jeu, dans une jungle. Mais ils n'ont pas le choix, ils doivent terminer le jeu.
Après,
ce que j'avais oublié de préciser, c'est quand même que le début du film commence par quelqu'un qui enterre le jeu.
Mais ce jeu a été effectivement enterré
années,
un siècle avant.
1800, oui, c'est ça, 1800,
un siècle avant par bah, deux jeunes qui ont ouais. Dû jouer. J'aimerais bien voir un préquel d'air.
Mais c'est un jeu de ouf. Enfin, c'est le jeu auquel on a tous envie de jouer.
Non.
Même.
Oh bah absolument pas. C'est un film bah, que j'adore, que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de fois.
Il n'y a pas de reproche à faire sur ce film.
Si.
L'animation, en fait. Il y a eu l'animatronics parfait.
Ouais.
Et tout non. Ce qui a été animé par synthèse. Oh, oui.
En même temps, tu pouvais pas les mettre en animatronics. Mais ça bouge trop vite.
Non. La même scène dans la cuisine des Gremlins. C'est 10 ans avant. Hein. Il y a d'autres scènes qui sont faites avec des animatronics. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est pour un. Du moins, c'est dans l'air du temps de l'image de synthèse 95.
Ouais, ça essaye des choses.
Mais quelle connerie. Franchement, c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce film.
Moi, je le regarde encore maintenant avec mes yeux d'enfant. Et peu importe les effets spéciaux dégueulasses qu'il peut y avoir.
Non.
Mais ça me dérange
là,
ça me dérange pas.
Non,
en fait,
mais au fait,
il est tellement porté.
Il y en a pas tout le temps.
Voilà.
Non, mais il est tellement porté par Robin Williams.
Non, et en plus, ce qui sauve ce film, justement, par rapport aux effets spéciaux, c'est qu'il y a aussi des animatronics.
Oui,
ouais. T'as aussi,
sur les plantes.
L'alligator, t'as aussi le pélican, t'as les araignées.
Très impressionnant, les plantes.
Les plantes, ouais, clairement.
Les plantes, après, il y a des choses, tu peux pas faire en animatronics, la faune qui traverse le salon, bon, il me faudra un lion en animatronics, un éléphant.
le lion est pas dégueulasse.
Non, quand il y a tout qui sort
ouais,
et qui traverse, tu peux pas
c'est
faire
chaud.
Ça.
C'est chaud, c'est un troupeau qui arrive. Après, ils ont vu que c'était beaucoup trop
c'est
complexe de tout faire.
Les problèmes de l'image de synthèse, c'est que c'est vieillissant avec les technologies.
Voilà, mais c'est pas grave. Si tu veux, c'est des choses... oui, qu'il faut non, voir avec son, enfin, à l'époque où c'est sorti.
Non, je suis d'accord avec toi.
Moi, pour moi, le film repose pas là-dessus, c'est plutôt les performances d'acteurs. L'échange entre les enfants et Alan Parrish, du moins Alan Parrish qui a grandi dans la jungle. Ouais. Il revient, ses parents sont morts.
Son passé qui le rattrape,
via le tueur, du moins le chasseur braconnier qui est interprété par le même acteur que son père. C'est le film de Alan Parrish et pas des autres enfants en fait.
Mais c'est
l'histoire d'Alan Parrish.
Ouais. Mais ouais, c'est son passé qui le rattrape, où il va devoir se confronter à toutes les choses.
Bah le flic qu'il a pas assumé,
qu'il a cherché à fuir en jouant en jeu.
Il y a pas grand chose à se dire.
Moi je le rythme bien,
c'est un film court hein, pour les enfants. Tu vois, contrairement à Hook, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ça dure 2h20 quand même.
C'est vrai.
Celui-là, il fait une heure de moins.
Il y a un truc que j'adorais quand j'étais gamin, c'est la première fois que tu vois le film. À chaque fois, le jeu t'annonce ce qui va se passer, mais de façon énigmatique. Quand tu jettes le dé et que tu lis sur le jeu « Besoin d'un coup de main », elles arrivent tout de suite.
Ouais.
Elles vont vous aider. Chacune en a 8. Ouais. Et tu sais pas ce qui va arriver.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il te balance un truc.
Et là, tu sais qu'il va arriver un truc qui craint.
Mais dans tous les cas, ça craint. Oui. Peu importe ce qu'il va t'annoncer, de manière, ça craint.
La BO est signée James Horner. On en a parlé dans Braveheart. Il a fait aussi Le Grinch, Casper. Donc, beaucoup de films pour enfants.
Bah, surtout Titanic, ouais. Il a eu un Oscar pour ça. Braveheart, ouais. Je sais plus, mais il y a moyen.
La musique que je vais passer, c'est le thème principal.
C'est du James Horner, ça passe toujours.
Puis ça me replonge dans mon enfance, en fait, tout simplement. Et du coup, les amis, c'était Jumanji. Et avec Robin Williams. Robin Williams. Dès qu'il y a Robin Williams, de toute façon, j'adore le film.
Le son de James Horner.
Et on peut passer au film suivant. Au dernier
le
film.
Le dernier film.
Et je vous présente aujourd'hui Small Soldier. Sorti en 98, film de Joe Dante, qui a réalisé L'Aventure Intérieure.
Les Gremlins.
Et Gremlins, qui nous a été présenté dans l'émission précédente.
Et
avec une distribution, on retrouve Kristen Dunst.
Ouais, j'adore.
Qui a joué dans Entretien avec un vampire. Beau casting sur ce film dans Jumanji, Virgin Suicide ou Spider-Man, quand même, Kristen Dunst.
Oui.
Phil Hartman, qu'on retrouve dans L'Arme Fatale, La Course aux Jouets, qui nous a été présenté ici même par notre ami Tim, qui ne reviendra pas d'ici l'année prochaine.
On l'a viré.
Voilà, on a Gregory Smith, qui a joué aussi dans The Patriot, Kevin Dunn, qui a joué dans Mississippi Burning et Hot Shot. Et on a Dennis Leary, qui a joué dans Demolition Man, L'Arme Fatale ou encore Underworld.
Wow.
Bref, un excellent casting avec plein de films dont on pourrait parler, mais nous ne sommes ici que pour parler de Small Soldier. Yeah. Alan Abernathy est un adolescent trop remuant pour la petite bourgade de l'Ohio où il habite. Expulsé du lycée pour une innocente plaisanterie, il aimerait se racheter aux yeux de son père, marchand de jouets. Un jour où son père part en voyage d'affaires, il prend sur lui de renouveler un stock de jouets désuets. C'est ainsi qu'il obtient une douzaine de figurines d'action, un commando d'élite super musclé et une tribu de monstres pataux, les Gorgonites. Ces charmants jouets sont en réalité dotés de puces militaires programmées pour s'entretuer et semer la panique. J'adore.
Mais
j'adore ce film.
Mais oui. Bon, on passe pas par quatre chemins, c'est entendu exactement comme ça. Mais comment on met des puces militaires dans des
voilà,
jouets.
Les mecs, ils créent des jouets, tac, ils ont accès à une technologie. Improbable. On est carrément sur de l'IA. Le mec, il crée des jouets. On lui dit, t'as accès à toute la technologie que tu veux. Ok, moi je veux que quand il sort de la boîte, tac, il pète la boîte. Ok, bah le mec il prend les puces les plus redoutables qui soient.
Dans le programme militaire, ils ont accès à tout pour.
Militaire, voilà, il a accès à tout. Et tac, il met des puces militaires dans des jeux. Et derrière, ça devient du n'importe quoi. On a une grosse référence sur ce film à Predator, où le réalisateur Joe Dante voulait même que les voix des commandos soient ceux du film de Predator.
C'est vrai ?
Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on aurait dû... Le Major Chipadar, ça aurait dû être Schwarzy, on aurait dû avoir du Carl Weather, on aurait dû avoir du Jesse Ventura, etc. Mais ce sera la voix de Tommy Lee Jones qui fera la voix de du Major Chip Hazard. Scénario qui a été acheté par Spielberg.
Il y a des enfants, il y a de l'argent. Ouais. Mais après, ils avaient déjà bossé ensemble sur Gremlins. La même mécanique que Gremlins.
Ouais,
exactement.
Les effets spéciaux n'étaient pas prêts.
Alors, par contre, je trouve que par rapport à Gremlins, il y a un problème de rythme au début. Direct, on t'entendait jouer et tout. Et après, on a la mécanique du lover qui aime la fille et tout. Du père qui revient.
Ouais. Moi, je trouve que ça passe.
À un moment donné, tu peux pas avoir que des jouets qui s'éclatent.
Non,
mais justement, à la sortie du camion.
Justement, ça peut paraître. Tu vois, en fait, je me suis mis à la place d'un enfant. Là, ça se pose, c'est une histoire d'amour, c'est pas trop le gamin. Pour arriver à un truc qui claque. Franchement, moi, le film claque. Je trouve que t'as une mécanique. Tout ce qu'il a pas pu faire dans les Gremlins, il l'a fait là. C'est marionnette des Gremlins qui était limitée dans les mouvements. Et bah là, ils étaient plus limités, ils faisaient ce qu'ils voulaient.
Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au final, il a attendu. Parce que les effets spéciaux n'étaient pas prêts pour encore produire ce film. Et donc il a attendu avant de pouvoir le démarrer.
Les deux films, on peut les comparer. Hein. C'est à peu près la même histoire.
Rythme, même durée et même plusieurs du moins.
Mais j'ai adoré les deux. Non, là, j'avoue, je préfère les Gremlins.
Small Soldier, franchement, le climax, la fin et tout est vraiment cool. Il y a vraiment un enjeu pour les enfants. Là, t'as quand même des enfants qui arrivent. Oh, c'est les jouets, ils sont mignons. Quand ils ont des couteaux, ils sont pas cool en fait. T'as un truc un peu bateau. Avant de t'entendre, c'est une vraie guerre et que les mecs, ils rigolent pas.
C'est-à-dire que lui, il rigole avec les Gorgonites, tac, il apprend des choses, le monstre, le Gorgonite gentil, nanani, nanana. Mais derrière, t'as des commandos, bonhomme, ils rentrent dans le garage et ils font pas semblant dans le garage.
Ils volent toutes les Barbies pour leur mettre des puces dans la tête.
Bah, moi, ce que je kiffe, c'est quand ils arrivent dans le garage et ils se disent, c'est là, l'armurerie, les gars, elle est là.
Ouais.
Ils ont des lance-clous.
Je me dis, pour un enfant, au final, bah là, tu vois tes jouets qui se mettent sur la gueule pendant trois quarts d'heure.
Tu sais, à un moment donné dans le film, tu dis, attends, ça va, c'est des jouets, tu sors, t'y vas. Gros, quand tu prends rafale de clous dans la cuisse. Mais sans parler des produits dérivés, etc.
Ça n'a pas été abusé pour un Spielberg.
Ouais, non mais
il y en a eu, voilà. Y en a toujours.
Voilà, où on peut retrouver du Burger King, on peut retrouver du Coca-Cola, etc. Mais... Voilà, où bon, il y a eu une histoire de Peggy, moins de 17, etc. Ouais. Et donc Burger King s'en était servi pour promouvoir donc des figurines dans les menus pour enfants.
Okay.
Mais en moins de 13 ans. C'était sur du moins de 17 à la base. Mais ils ont réussi à faire le truc pour moins de 13 et Burger King a réussi à passer des jouets.
Passé en moins de 12, c'est ça ?
En moins de 13. Ouais.
Ah bah c'était plus de l'âge que j'avais.
Tu as toujours respecté les règles, Dayu, c'est ça qui est magnifique.
Bien sûr.
Il y a quand même une anecdote pas très sympa, mais quand même qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'en 98, en mai 98, Phil Hartman, qui interprète le père de Kristen Dunst dans le film, est assassiné par sa femme. Empêchant de retourner certaines scènes demandées par Burger King, Universal décide de retirer les bandes annonces et spots télévisés, le montrant agressé par les figurines dans le long métrage. Le film lui est finalement dédié avec la mention à Phil. Bref, ce film dont la a été
composé par
Jerry Goldsmith.
Goldsmith.
Bon, on en a pas encore trop parlé, mais découvrez-le.
Avant que tu passes ta musique, Bobo.
Oui. Nous avons la roulette d'Aus, la roulette, la roulette pour le prochain thème.
Le prochain thème sera Mafia. Pour la musique du film Small Soldier, qu'as-tu choisi, Maxime ?
Jerry Goldsmith, The Assembly Line. Bisous tout le monde.
On se dit au mois prochain.